إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، بإذن الله عز وجل نواصل قراءتنا لكتاب شرح الأدب المفرد لشيخنا محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وقفنا في ما مضى عند حديث جريج، وتوقفنا في ذكر بعض الفوائد أو في ذكر ما يؤخذ من هذا الحديث. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الرضيع ينظر ويتأمل ويتفكر، عنده قدر من العلم. عند هذا الصبي قدر أي نصيب من العلم. يقول: هذا جبار عنيد. وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها. فهذا الصبي قد علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل بقولها: حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. كيف يعني هذا الصبي الصغير في المهد يعني له هذا العلم، هذا وهذه المعرفة؟ طيب، فالله جل وعلا رب العالمين على كل شيء قدير، وقد يجري من الأمور التي تخالف العادة ما يشاء، وما يكون آية من آياته إما تأييدا للرسوله أو تأييدا لأحد من أوليائه. Donc, nous poursuivons bien Allah Ta'ala la lecture de l'explication du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, le charh de Sheikh Raslan, hafidhahullah. Et nous nous étions arrêtés au hadith de Jureyj. Donc le Jureyj, le hadith de Jureyj, je pense que ça fait 3-4 cours que nous sommes dessus déjà. Et nous avons cité la semaine dernière les choses, les enseignements que nous tirons de ce hadith. Et parmi les enseignements, justement, un des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est que ce radi', ce bébé-là qui est encore allaité par sa mère, yani, a observé ce qui se passait autour de lui et réfléchissait et méditait. Il avait même une science. Allah jalla wa ala lui a donné cette science, cette connaissance, ce savoir-là. Donc ceci est un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il a dit hadha jabbarun anid, en parlant de ce cavalier sur son beau cheval, masha'Allah. Il a dit ceci était un jabbar, c'est un tyran, na'am, un orgueilleux, un entêté. Anid, il est entêté, c'est un tyran entêté. Il a dit également par rapport à la jeune fille qui se faisait accuser de zina et de vol, il a dit, « Oh Allah, fais que je sois comme elle. » Donc s'il l'a dit, c'est qu'il connaissait sa situation. Celle de la fille, mais également celle de cet homme. Taïeb, il savait donc que la fille était victime d'injustice, qu'elle était innocente de tout ce qu'on l'accusait. Et il savait que elle a confié sa vie et son sort à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Donc ceci est un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment se fait-il que ce petit bébé-là possédait et détenait cette science-là? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères, il est capable de toute chose. Allah jalla wa ala est capable de toute chose. Naam. Et il peut faire exister ce qu'il veut parmi les choses qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire créer, faire exister des choses par des causes qui sont connues de tous, mais il peut créer des choses et faire exister des choses sans cause, sans rien du tout. Taïeb, ou par des moyens que nous n'avons pas l'habitude de voir. Taïeb. Naam. Donc tout cela fait partie des signes d'Allah, le fait qu'il a soutenu, bien sûr, ses prophètes et ses messagers à travers ses miracles, à travers ses signes, comme vous le savez, mais également, yani, des gens qui ne sont pas forcément des prophètes, qui ne sont pas forcément des messagers, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala les a soutenus, les a aidés de par sa ma'iyya al-khasa, hein, vous vous rappelez les cours de dimanche, notamment donc par ces signes-là qui sortent de l'ordinaire, d'ailleurs, des choses extraordinaires. وكذلك من ما يؤخذ من هذا الحديث استحباب الوضوء للصلاة استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات نعم فإنه لما اتهم استمهلهم حتى يصلي فهذا يدل على أن الوضوء الذي ذكر في الحديث كان معروفا في شرع من قبلنا طيب لأن جريجا قد طلب منهم مهلة لكي يتوضأ ويصلي ويدعو ربه جل وعلا فهذا الدليل على أن في الأمم السابقة قد شرع الوضوء كذلك لأن في صحيح البخاري قال فتوضأ وصلى هذه في رواية فتوضأ وصلى نعم enfin la dernière chose que l'on tire du hadith le fait qu'il est recommandé de faire les ablutions donc les ablutions que l'on fait pour la prière d'habitude mais pour faire des invocations yani lorsque tu veux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en dehors de la prière eh bien il est recommandé de faire les ablutions également طيب lorsque tu veux invoquer tu veux demander à Allah des choses importantes yani طيب parce que lorsque Jureyj a été accusé à tort qu'est-ce qu'il a fait il leur a demandé un délai il leur a demandé un délai et cela nous montre donc que les ablutions qu'il a faites dans ce hadith et bien que les ablutions existaient aussi dans les communautés précédentes qui nous ont précédés. D'accord? Donc ce n'est pas une spécificité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme pour la salat également. D'accord? Donc le wudu, la salat existait aussi à l'époque des messagers précédents et des prophètes précédents. Mais, bien sûr, la manière et la façon de les faire, yani, Allahu alam, on ne les connaît pas. C'est possible que ce soit fait d'une manière différente. Il n'y a pas de choses qui empêchent ça. Mais ils avaient donc leur rite d'ablution et leur rite de prière. Et la preuve, donc, le hadith de Jureyj. Naam, rahimahullah ta'ala. Et cela, donc, la preuve c'est une version rapportée par Al-Bukhari qui dit Fatawadda wa salla. C'est-à-dire que Jurayj, il a fait le wudu, puis il a prié. Donc c'est la preuve qu'avant, ils avaient aussi les ablutions. Alhamdulillah. Taïb. Fa, bihamdillah azza wa jalla, nantakilu ila al-bab al-ati, ala wa huwa ardu l'islami ala l'um al-nasraniya. Ardu l'islam ala l'um al-nasraniya. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي وقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. طيب أخي إسلام قرأ شرنا
إذا في الإسلام أنا مات كتشير أبو هريرة رضي الله عنه أجي Personne futile juif chrétien ne m'écoutait sans plus de m'aimer. Je désirais ardemment que ma mère embrasse l'islam, mais elle refusait. Je lui présentais l'islam, mais elle refusait encore. Je partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Invoque Allah en faveur de ma mère. » Ce qu'il fit. Je revins voir ma mère et elle venait de refermer la porte derrière elle et me dit alors « Oh Abu Huraira, j'ai embrassé l'islam. » J'en informais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui demandais « Invoque Allah pour moi et ma mère. » Il a dit, « Oh Allah, fais que les gens aiment ton serviteur à Abu Huraira ainsi que sa mère. »
Barakallahu fik. Taïb. Le hadith, Hassan. Darajat le hadith, Hassan. Wa akhrajahu muslim, kedalik, fis sahih, bi atamma mimma hahuna. Donc le hadith, il est Hassan. C'est un hadith qui est bon. Et qui a été rapporté également par l'imam muslim dans son sahih, dans une version yani, plus complète. Rijal al-Isnad, Ikrima ibn Ammar, wa huwa Abu Ammar, ahadul a'imma. Abu Kathirin al-Suhaymi, huwa Yazidu ibn Abdurrahman, wa huwa thiqa. Donc parmi les rapporteurs du hadith, nous avons Ikrima ibn Ammar, donc Abu Ammar, qui fait partie d'un des imams et l'un des savants du hadith et rapporteurs de hadith, rahimahullah. On a également Abu Kathir al-Suhaymi, Abu Yazid ibn Abdurrahman, qui fait partie des, alayhi salam, rahimahullah, qui fait partie des al-thiqat. Donc al-thiqa, c'est un terme utilisé yani, par les savants du hadith pour dire que la personne, elle est digne de confiance et qu'on peut prendre le hadith d'elle. D'accord ? Ma'ani al-kalimat. Qawluhu babun 'ardhu al-islam 'ala al-umm an-nasraniyya. Fa dhahiru sani' al-imam rahimahullah ta'ala ay al-Bukhari anna umm Abi Hurairah kanat nasraniyya. Fa hadhihi at-tarjama tadullu 'ala أن أم أبي هريرة كانت نصرانية لأنه ذكر حديثا واحدا تحت هذا الباب والباب هو عرض الإسلام على الأم النصرانية. Donc l'intitulé du chapitre yarhamukallah qui est la proposition de l'islam à la mère Nasraniya, à la mère chrétienne. Ce titre-là, il nous montre une chose. Tout simplement, yani, le fait que la mère de Abi Huraira radiyallahu anhu ou anhuma était chrétienne à la base. Avant d'embrasser l'islam, elle était chrétienne. Parce qu'il a cité le titre du chapitre et il n'a cité qu'un seul hadith qui est celui-là. Donc, cela montre évidemment que sa mère était une nasraniya. Ajafat alayha al-bab. ما معنى أجافت عليها الباب أي ردته وأغلقته أغلقت الباب يسمع صوت الماء من داخل إذا كانت تغتسل للإسلام لكي تعلن إسلامها رضي الله عنها وكانت قبل قد سبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني بوقت قريب قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الإسلام لما عرض ولدها عليها الدين الحق فأخذ أبو هريرة يبكي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله لأمه فرجع فوجدها قد أجافت عليها الباب أي ردته أغلقت بأنها كانت تغتسل فمنعته من الدخول فاستنذرته حتى تتم غسلها أو غسلها ثم دعته بعد أن فرغت من ذلك ووضعت عليها ثيابها فشهدت شهادة الحق أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو هريرة جاء أبو هريرة لما ثبت الإسلام جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليها وحزنا لحالها فلما أسلمت رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رجع يبكي فرحا بإسلامها أي في المرة الأولى بكى حزنا أما الثانية بكى فرحا بإسلامها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولها بهذا الدعاء العظيم. Donc il dit Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que sa mère avait donc refermé la porte derrière elle, la porte de chez elle. Elle a refermé la porte. D'ailleurs, et on pouvait entendre l'eau coulait à l'intérieur, de l'extérieur. Vous pouvez entendre l'eau couler. Donc, il avait compris que sa mère était en train de faire la douche. Yani. D'ailleurs, en fait, elle était en train de faire le ghusl afin d'embrasser l'islam et de faire l'attestation de foi. Alors qu'auparavant, elle avait insulté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait insulté l'islam lorsque son fils Abu Huraira lui avait proposé d'entrer en islam et d'embrasser l'islam, la religion de vérité. Et lorsque au début elle insultait le prophète, elle insultait la religion et qu'elle refusait catégoriquement d'embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait par tristesse et il partait voir le prophète. Il partait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé d'invoquer Allah tabarak wa ta'ala pour sa mère. Et donc lorsqu'il est revenu, il est retourné chez elle, il a trouvé la porte fermée. Il a trouvé la porte fermée et elle était en train donc de faire el ghusl. Elle a fermé la porte pour que Abu Huraira ne puisse pas entrer. Tayyib. Puis lorsqu'elle a fini, eh bien elle a appelé son fils. Elle a mis ses vêtements, elle a appelé son fils, et là elle a fait l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Regardez au début, elle qui insultait l'islam, et qu'à cause de ça, Abu Huraira partait voir le prophète en pleurant. Pourquoi il pleurait au début? Hein? Non. Parce qu'il avait de la peine. Il était triste que sa mère refuse l'islam. Mais lorsque elle a embrassé l'islam, elle s'est convertie à l'islam, là elle est retournée voir le prophète et il pleurait encore. Et pourquoi il pleurait là? De joie. Ahsant. Hein? Au début il pleurait de tristesse et après il retournait, mais il pleurait de joie cette fois-là. Allahu Akbar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore fait une invocation à la demande d'Abu Huraira pour lui et pour sa mère. Qawluhu azza wa jal, qawluhu afan sallallahu alayhi wa sallam, ahibbahuma ila an-nas. Allahumma ahibbahuma, ay ahibba Abu Huraira wa ummahu ila an-nas. ولفظ مسلم اللهم حبب عبدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. طيب. Donc il a dit dans sa dernière invocation, ô Allah, fais que Abu Huraira et sa mère soient aimés auprès des gens. Fais que les gens aiment Abu Huraira et sa mère. Et dans la version de Muslim, il dit « Oh Allah, fais aimer ton serviteur Abu Huraira ainsi que sa mère auprès de tes serviteurs croyants et fais aimer tes croyants auprès d'eux. » Fais aimer les croyants auprès d'Abu Huraira et de sa mère. « فَقَوْلُهُمْ حَبِّبْ عَبْدَكْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْنُ نُحِبُّ عَبْدَكَ أبا هريرة ونحب أمه لا شك سبحان الله من المسلمين لا يحب أبا هريرة لا يحب أمه إلا الضالين المضلين نعم وأبو هريرة رضي الله عنه يقول إنه ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني حتى النصراني حتى اليهودي سبحان الله إذا سمع به قد أحبه فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول الشيخ لم يساوي المذكورين في كلامه الروافض الروافض فإنهم يكفرونه يكفرون أبا هريرة ويبغضونه وكذلك العلمانيون والمفكرون والمنحرفون كذلك يبغضون أبا هريرة رضي الله عنه ويرمونه بالزيادة في الدين والكذب نعوذ بالله نعم donc il dit ici le cheikh il dit oh Allah nous aimons certes ton serviteur Abu Huraira et nous aimons sa mère d'accord celui qui aime Abu Huraira celui qui aime yani sa mère cela est indiqué des indicateurs de sa foi. Bihamdillah. Et il dit à Abu Huraira, c'est pas seulement les croyants, il dit, pas un chrétien et pas un juif n'a entendu parler de moi sans qu'il m'aime. Sans qu'il m'aime. Il dit le shaykh, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ar-rawafid n'ont pas atteint le niveau de ces gens-là qui aiment Abu Huraira. Car les Rawafid ont rendu mécréant Abu Huraira. Ils disent que c'est un kafir. Ils le détestent. Subhanallah. Que dire alors des laïcs, des penseurs, des philosophes, hein, et des égarés qui disent que qui détestent Abu Huraira et qui prétendent qu'il aurait inventé des hadiths, qu'il aurait rajouté des choses dans le dîn, dans la religion. Voyez. Donc, ne critique Abu Huraira, ne insulte Abu Huraira, ne rabaisse Abu Huraira que celui qui est égaré, d'un égarement évident. Comment peut-il dire ça alors que le prophète, il a dit « Allahumma habib abdaka hadha wa ummahum ila nas » ou ila ibadika al-mu'minin subhanallah ma yu'khadhu min al-hadith أولا استحباب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان معزوما من أصحابه فيفرج الله كرب المكروبين لأنه صلى الله عليه وسلم استجاب الدعاء كما في هذا الحديث العظيم وهو من أعلام نبوته لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لها بالهداية فأسلمت. Donc ce que l'on tire du hadith, mes frères, premièrement, la recommandation de l'invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui est en situation de détresse, en grande difficulté parmi ses compagnons. Allah tabaraka wa ta'ala, par la cause de ses invocations, yani il a soulagé de nombreux sahaba qui étaient en situation de difficulté. Car bien sûr, ces invocations yani, sont exaucées, comme dans ce hadith. Et cela donc est un des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans ce hadith, on a vu qu'il a invoqué, l'a guidé pour cette personne-là, et Allah tabaraka wa ta'ala a guidé son cœur à l'islam. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples d'acceptation de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم حرص الولد على اسلام امه من حيث عرض الاسلام عليها وطلب الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعتنق الدين الحق. Deuxièmement, l'enfant doit faire des efforts afin d'appeler sa mère à l'islam. Pour celui qui a une mère qui n'est pas musulmane, ou celle qui est musulmane, il doit l'appeler à la sunna, il doit l'appeler à l'islam authentique, le salaf salih. Donc il doit proposer, il doit appeler sa mère à cela. Taïb, car on l'a vu, le prophète, ou plutôt Abu Huraira Afwan, a fait cela et est parti voir le prophète afin qu'il l'invoque pour sa mère. ثالثا الاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر على الإيذاء. Troisièmement, le fait qu'il faille de accorder de l'importance aux invocations de la mère et des proches. Et qu'il faut aussi patienter face aux préjudices qu'il pourrait te faire. Voyez ? Donc lorsque la mère d'Abu Huraira a insulté l'islam, a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a refusé d'entrer en islam, est-ce qu'il a laissé tomber ? Est-ce qu'il a dit ça y est, khlas, j'arrête ? Allez, j'arrête, j'en peux plus. Ça y est, j'ai fait mon devoir. Non. Il a continué, il a insisté, il est parti voir le prophète, il lui a demandé les dua jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala réponde à sa dua. Tayyib. Yani, il se peut que certains abandonnent avant même d'avoir patienté comme il se doit. Et la patience, en vérité, elle doit persister jusqu'à ce que la personne yani, décède. Tant que la personne est vivante, eh bien Allah est capable de la guider. Même si la personne yani, combat l'islam, même si elle insulte nuit et jour l'islam, du matin au soir, tant qu'elle est vivante, qui te dit que Al-qulub biyadillah tabaraka wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs sont entre les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la main d'Allah. Il les retourne, il les renverse comme il veut. Il les renverse comme il veut. Ça y est. Et en plus, je ne pense pas que les parents, même ceux qui ne sont pas musulmans, ont atteint ce niveau-là d'insulte envers l'islam ou de... Non. Al-Rabi'a. Talabu al-du'a lil-walidin. Quatrièmement, la recommandation d'invoquer pour les parents, de faire des invocations pour les parents. خامساً أن يحتمل الولد ما يكون من كلام والديه وصبر على ذلك فإن أم أبي هريرة قد طعنت في الدين ونبيه وصبر أبو هريرة وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكان ما كان. Donc comme on a dit un peu dans la troisième mas'ala, yani l'enfant il doit patienter face aux paroles qui peuvent être prononcées par ses deux parents et il doit patienter donc sur ça, comme on l'a vu et comme l'a fait Abu Huraira lorsque sa mère elle a rabaissé, elle a insulté, elle a critiqué la religion ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien il a patienté, il est parti voir le prophète et cela a abouti à un dénouement heureux, alhamdoulillah. Sadisan anna da'wata ila din al-islam min wajib al-ulama warathat ar-rusul an yuballighu an-nas al-islam man lam yuslim بدعوته للدخول في الإسلام ومن كان مسلما يدعونه إلى الاعتصام بالإسلام بدءا بتعلمه وتفقه فيه والعمل بمقتضاه ودعوة الناس إليه بعد العلم والعمل. Sixièmement, l'appel à la religion de l'islam est une obligation pour les ulama, bien sûr, en particulier les héritiers des messagers alayhim salatu wassalam. Donc ils doivent propager, transmettre l'islam aux gens. Donc celui qui n'est pas musulman, eh bien il doit l'appeler à l'islam. Et celui qui est musulman, il doit l'appeler à yani, revenir à l'islam, vers l'islam authentique premièrement. Puis il doit lui donner des enseignements, il doit l'enseigner, l'apprendre des choses. Il doit lui faire comprendre sa religion. Il doit l'appeler à l'application de sa religion et appeler les gens donc à cela après avoir appris tout d'abord, appliquer sa religion et puis transmettre ce qu'il a appris et appliqué. Alhamdulillah. Fa na'khudhu min hadha al-hadith ikhwati fillah wujub 'ard al-islam lil-umma 'umuman wa lil-aqarib خصوصا فمن كان من الأقارب مسلما إلا أنه يغلب عليه الجهل فوجب عرض الإسلام عليه وتعليمه أركان الإسلام تعليمه أركان الإيمان الإحسان الحلال الحرام وكيفية أداء العبادات المفروضة والواجبة حتى يكون عمله هذا صحيحا إذ أن العمل لا يصح إلا بعد العلم والعلم لا يحصل لأحد إلا بتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. فهذا كما قال الشيخ زيد المدخلي في ظهر الله من وظائف طلاب العلم على اختلاف طبقاتهم فكل بحسب استطاعته وقدرته وطلاب العلم يقول الشيخ أئمة الناس أئمة الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الدعوة إلى الإسلام وفي الدعوة إلى اعتصام به حتى يصبح حال الإنسان أحسن حال. طيب ويتم له التأسي بالرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى ووحى عليهم العلم وأمرهم بتبليغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وطلاب العلم من العلماء على اختلاف طبقاتهم من الذين يعلمون ويعلمون الناس إذن طلاب العلم كذلكم من ورثة الأنبياء لا شك. يجي الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورحمه pour tirer de ce hadith l'obligation de proposer l'islam. De proposer l'islam, premièrement, bien sûr, à toutes les créatures de manière générale et aux proches de manière particulière. Aux proches d'abord. Donc on a tous des proches, bien sûr, musulmans ou non musulmans, qui ignorent ce qu'est vraiment l'islam. Qui ignorent vraiment la réalité du message de l'islam. Il est donc obligatoire de fournir un effort conséquent afin de leur enseigner tout d'abord les piliers de l'islam, les piliers de la foi, les piliers de l'ihsan, l'halal, l'haram, comment adorer Allah tabarak wa ta'ala, comment prier, comment jeûner. Hein? En commençant tout d'abord par les choses qui sont obligatoires. Avant les choses recommandées, commence par les choses obligatoires d'abord. Jusqu'à ce que l'acte de la personne que tu appelles à cela soit valide. Car le but, c'est de lui faire comprendre que son acte doit être valide avant tout. Ce n'est pas de faire beaucoup d'actes, mais c'est de faire des actes qui sont valides auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'acte ne sera valide qu'après avoir su comment la faire. C'est-à-dire qu'après avoir eu la science de cet acte-là. Et la science ne peut s'acquérir qu'en apprenant. Il n'y a pas d'autre solution. Allah tabarak wa ta'ala ne va pas faire descendre sur toi une révélation, c'est fini. Donc ta seule possibilité d'apprendre ou d'acquérir de la science, eh bien c'est d'apprendre. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Classe. Et c'est pour ça que parmi les missions des étudiants en sciences, en fonction bien sûr de chacun de leur niveau de science, hein, les étudiants en sciences ne sont pas tous au même niveau. On a les petits étudiants qui viennent à peine de débuter et on a les presque savants parmi les étudiants. Donc eux, ils doivent, selon leur capacité et leur niveau, ils doivent transmettre cela. Car, il dit les cheikhs, ce sont les imams, les guides des gens, qui doivent les appeler à l'islam, aux vertus de l'islam, à retourner à l'islam, jusqu'à ce que ils voient leur état changer. Jusqu'à ce qu'ils voient que l'état de la Ummah, l'état de ses proches, évolue dans le bon sens. Et change en bien. Et qu'ils voient chez eux un suivi correct des prophètes et des messagers. Lorsqu'on regarde nos familles, lorsqu'on regarde nos proches, nos amis, on doit se poser la question, où en sommes-nous par rapport au suivi des prophètes et des messagers? Est-ce que les prophètes et les messagers, s'ils étaient vivants à notre époque, vivraient comme nous vivons, se comporteraient comme nous nous comportons? Même pas, on ne parle même pas des prophètes, juste les sahaba. On ne parle même pas des sahaba, juste les salaf. Est-ce qu'ils feraient ce que nous ferons? Ce que nous faisons à fond. Hein? Est-ce qu'ils sortiraient dans la rue en klaxonnant à minuit alors que les gens ils dorment? Il y a des malades, il y a des gens qui travaillent. Sahalallah. Non. Tous ces comportements-là, wallah, ils font du mal à l'islam. Ils font du mal aux musulmans et à l'islam. Wallahi. Et ne fait que alimenter le racisme, l'extrême droite et compagnie. C'est vrai ou pas? Hein?
La vidéo, c'est quoi la vidéo?
C'est ça que tu penses, hein? Quelle vidéo?
Sur le match et tout, je sais pas quoi.
Hein?
Une femme qui a. J'ai reçu une vidéo, regardez, elle commence à insulter. Ouais, c'est quoi? Ils ont même pas gagné l'Algérie, le klaxon et tout.
Non, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Non, non, moi. Après, on a tous vu des choses. On a tous vu des choses. Non, c'est pas comme ça, subhanallah. Le muhim, il faut savoir que les étudiants en sciences font partie, eux aussi, des héritiers des prophètes. Et Inch'Allah, vous en faites partie. Inch'Allah, vous en faites partie. Le fait de s'asseoir, d'écouter un rappel, d'écouter les paroles des mashayikh, d'écouter les ulama, dans le but d'acquérir de la science, d'enlever son état d'ignorance, c'est une forme de recherche de science, c'est une étude. Chacun selon son niveau. Il n'y a pas de doute que les étudiants sont aussi les héritiers des prophètes. C'est les héritiers des prophètes. Comme il l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certes, les ulama sont les héritiers des prophètes. Donc celui qui a une part de science, il a une part d'héritage. Et plus tu as de la science, et plus ta part d'héritage sera grande. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de rajouter notre héritage des prophètes et des messagers. Alayhi wassalam. طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بر الوالدين بعد موتهما بر الوالدين بعد موتهما. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم. اسلام.
شفيق. La piété filiale après la mort des parents. Abu Sayyid, nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme demanda: Ô messager d'Allah, puis-je encore agir avec bonté envers mes défunts parents? Il répondit: Oui, tu le peux à travers quatre choses. Invoquer Allah en leur faveur, implorer le pardon d'Allah pour eux, exécuter leur engagement et être généreux avec leur ami. Il y a aussi le lien de parenté à unir à travers eux, même si toi tu n'es pas de lien, même si toi tu n'as pas de lien direct avec les personnes concernées.
D'ailleurs. إذن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن علي ابن عبيد الساعدي لا يعرف، وقد أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحديث كما مر ضعيف بهذا الإسناد، وإن كانت الجمل التي ذكرت فيه يشهد لها الكثير من الآيات والأحاديث. Donc on passe au hadith numéro 35. Donc a été lu par notre frère Fidaullah. Il dit le rapporteur ici qui est Abu Usaid. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un homme a dit: Ô messager d'Allah, est-ce que après la mort des parents il reste des bonnes actions à faire en leur faveur? est-ce qu'il nous reste, après leur mort, des bonnes actions à faire en leur faveur? Et le prophète de dire, oui, il y a quatre choses. La première, le fait d'invoquer pour eux. Ad-du'a lahuma. La deuxième, leur demander pardon, ou plutôt demander pardon à Allah pour eux. La troisième, le fait d'exécuter leur testament, ou leur recommandation, ou leur pacte. On verra après dans le sharh. Na'am. Wa ikramu sadiqihima, le fait d'honorer leurs amis, wa silatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima, et le fait de lier les liens de parenté. Donc le hadith dit, il est faible par rapport à un des rapporteurs de hadith qui est Ali ibn Ubayd al-Sa'idi, qui n'est pas connu. Donc on connaît son nom, mais on ne connaît pas son état. Est-ce qu'il est fiable au niveau de la religion? Est-ce qu'il est fiable au niveau de la mémorisation et du rapportage des hadiths? On ne sait pas. Donc, on ne peut accepter les hadiths tant qu'on ne connaît pas l'état réel de ce rapporteur-là. Le hadith, il a été rapporté par d'autres savants tels que l'imam Ahmed, tels que Abu Daoud et Ibn Majah. Donc, bien que le hadith il soit faible au niveau du isnad, au niveau de la chaîne de transmission, il faut savoir que les phrases et le sens qu'il comporte a été confirmé et validé par notamment des versets du Coran et par d'autres hadiths. Donc, même si le hadith en lui-même il est faible au niveau de la chaîne, eh bien le sens, lui, il est bon, il est correct. D'accord ? Non. Rijal Isnad, عبد الرحمن ابن الغاسل وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة والغاسل جد أبيه غسلته الملائكة يوم أحد. Donc il y a parmi les rapporteurs du hadith, donc celui que l'on a juste après Abu Nu'aym, on a عبد الرحمن ابن الغاسل. Donc en fait lui s'appelle عبد الرحمن ابن سليمان. D'accord, son père s'appelle Sulayman. Et son grand-père, il s'appelle Abdullah. Et son arrière-grand-père, il s'appelait Hanzala. Et Hanzala, c'était un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a surnommé Al-Ghassil. Et dans certaines versions, Al-Ghassil. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que lorsqu'il est mort, lors de la bataille de Uhud, radiyallahu anhu, le prophète a dit que les anges sont en train de le laver. Lorsqu'il est mort, ce sont les anges eux-mêmes qui l'ont lavé. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ghassil. Al-Muhim, donc Abd al-Rahman ibn al-Ghassil, c'est l'arrière petit-fils de cet homme-là, de ce compagnon. Thumma Usayd ibn Ali ibn Ubayd huwa mawla Abi Usayd. Puis on a Usayd ibn Ali ibn Ubayd, qui est donc Al-Mawla de Abi Usayd. Donc, lorsque vous voyez le terme Mawla, lorsque vous lisez les biographies des rouettes, des rapporteurs de hadith, qu'est-ce que ça veut dire, Mawla? Là, là où le terme Mawla, ils peuvent vouloir dire le maître, mais ils peuvent vouloir dire l'esclave aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais Mawla, il peut vouloir signifier ou désigner un esclave affranchi. Un esclave qui a été affranchi, on dit de lui Mawla. Donc lorsque tu vois dans les tarajim, les biographies des rouettes, des rapporteurs de hadith, Mawla Fulanin, ça veut dire que c'était un ancien esclave à lui qui l'a affranchi. Donc là, lorsqu'il dit Mawla Abi Usayd, ça veut dire que C'était un esclave qui appartenait à Abu Usayd, mais qui a été affranchi par lui. D'accord ? Donc là, c'est une faïda, yani, par rapport à ce terme-là. ثم أبيه أي أبو أسيد وهو علي بن عبيد وثقه بن حبان. Donc on a le Abu Usayd, نعم, donc qui était l'ancien maître de cet esclave là, et c'était un rapporteur donc digne de confiance, comme l'a dit Ibn Hibban. ثم, non, ça c'est Ali Afan, c'est le père de Usayd. Puis on a Abu Usayd, donc le maître de l'ancien maître de Usayd, qui s'appelle Malik ibn Rabi' al-Sa'idi, akhiru man mata min al-Badriya al-Badriyin afwan sanata 60. Et Abu Usayd, qui s'appelle Malik ibn Rabi', et c'est la dernière personne qui a fait la bataille de Badr et qui est morte. D'accord, c'est la dernière personne vivante, yani, parmi ceux qui ont fait Badr, et qui est morte donc l'an 60 de l'Hégire. Rahmatullahi alayhi. Ma'ani al-kalimat. Ma'ani al-kalimat. Abarruhuma ay asiluhuma wa uhsinu ilayhima. Donc lorsque il dit Abu Usayd, est-ce qu'il, lorsque nos parents ils meurent, est-ce qu'on peut encore faire preuve de birr? Abarruhuma. Donc ici, il veut dire, est-ce qu'on peut encore lier les liens de parenté avec eux? Est-ce qu'on peut encore être bienfaisant envers eux alors qu'ils sont morts? Ou est-ce que ça y est, c'est fini, on ne peut plus être bienfaisant envers eux et ne plus faire de bien pour eux? Fini, tu peux plus rien faire sans pas musulman. Voyez, mais s'ils sont musulmans, hein, tu peux encore. Une phase à ahdihima, mais cela ne t'empêche pas aussi d'appeler leur famille à l'islam. Voyez, mais quant au fait d'invoquer pour eux, non, tu peux pas. Non. ثم une phase à ahdihima. Donc le fait d'exécuter leur pacte, ici littéralement leur pacte, il dit le shaykh, eh bien c'est l'application de leur testament. Fait partie donc de la bienveillance, la bienfaisance envers tes parents après leur mort, appliquer leur testament. Fi al-mubah bitab, dans ce qui est licite bien sûr. Non.
Si les parents ne veulent pas satisfaire leur enfant, mais à leur mort, les deux faisant un peu.
Je veux dire, s'ils sont morts,
si par exemple,
ils n'étaient pas contents de leur enfant.
Ils n'étaient pas contents de son fils, et que une fois morte, il est devenu bienfaisant envers sa mère.
Ben, on espère pour lui qu'Allah lui pardonne et qu'Allah l'accepte. Alhamdulillah. Si jamais il était en tort. Si jamais il était en tort, non, on peut espérer pour lui. Une bonne issue. Non. ما يؤخذ من الحديث. أولا الحث على الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين. Premièrement, l'incitation d'invoquer Allah tabarak wa ta'ala en faveur de ses deux parents, d'invoquer la rahma, d'invoquer, de demander la rahma, de demander le pardon à Allah tabarak wa ta'ala pour eux. Donc encore une fois, ça c'est pour les parents musulmans qui sont morts musulmans. الثاني الحث على إنفاء العهد الذي كان بين والديه وشخص آخر وَتَوُفِّيَا قَبْلَ إِنْفَابِهِ. Deuxièmement, l'encouragement, l'incitation à appliquer les pactes, les contrats qu'avaient fait les deux parents avant de mourir avec une tierce personne. Donc si tes parents ils sont morts avant d'avoir pu respecter leur contrat ou leur pacte envers qui que ce soit, eh bien fait partie de la bienfaisance envers eux de finir ce qu'ils ont commencé.
ثالثا من تمام البر وصلة الإكرام والصلة الإكرام والإنفاق على أصدقاء الوالدين وأصحابهما.
Troisièmement, fait partie de la perfection de la bienfaisance et du lien de parenté le fait d'être généreux, d'honorer et de dépenser pour les amis de tes parents. Hein? Pour les amis, les compagnons, les proches de tes parents. Le fait de les visiter, de demander après eux, hein? De leur donner des choses, d'être bienfaisant envers eux. Tout ça rend dans la bienfaisance envers les parents.
Même s'ils ne sont pas musulmans.
Non. Le musulman, il est bienfaisant envers tout, toutes les créatures. Tant que la créature ne combat pas à l'islam, ne lutte pas, ne fait pas la guerre à l'islam, il n'y a aucun problème à être bienfaisant envers le kafir. Surtout si c'est un voisin ou un proche parent ou un proche de tes parents ou un ami de tes parents. Non. وهذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من باب بر الوالدين، والدين الميتين، وكذلك من باب الدعوة. Donc ça c'est afin d'être bienfaisant envers les parents même après leur mort, mais aussi bien sûr pour rappeler à l'islam, rappeler à l'islam et pour appeler à Allah تبارك وتعالى. خامسا أو رابعا فضل صلة الأرحام وأن الإنسان لا يستحق هذا الفضل إلا بسبب الوالدين.
Quatrièmement, le mérite de lier les liens de parenté, car l'homme ne peut mériter ce bienfait-là que par la cause de ses parents.
Et naam. Donc si on a des liens de parenté, c'est parce que tes parents ont été la cause de ta naissance.
Khamisan, man yakhdumu abawayhi yanbaghi alayhi an la yatluba bi khidmatihi manzilatan 'indahuma illa min haythu anna ridha Allah fi ridha alwalidain wa la yajuz liman yakhdumu abawayhi an yura'iya bi ta'atihi لينال بها منزلة عند الوالدين.
الله أكبر.
فإن ذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبلهما أيضا فينبغي يخدم والديه إرضاء لله تبارك وتعالى لأن رضا الله في رضا الوالدين.
طيب cinquièmement, celui qui rend service à ses parents, il ne faut pas qu'il recherche à travers ce qu'il fait en faveur de ses parents-là une place auprès d'eux, une faveur auprès de eux. Que ce soit une chose financière ou matérielle, par exemple. Vous voyez ? Mais il doit faire ça uniquement pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Pas pour que ses parents lui achètent une voiture ou une maison. Non. Il le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pour rien d'autre. Pas pour être le chouchou de la famille ou l'enfant préféré parmi les frères ou les sœurs ou là. Hein, esprit de compétition entre les frères et les sœurs, Non, c'est pas ça. C'est pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas permis, dit le shaykh, pour celui qui fait du bien et qui rend service à ses parents, de montrer, yani, de manière ostentatoire, hein, cette obéissance-là, afin d'acquérir et d'atteindre une place auprès d'eux. Dit le shaykh, cela est même une désobéissance en soi, et Allah tabaraka wa ta'ala le dévoilera. Dévoilera son ostentation, et il fera même que son estime baisse dans le cœur de ses parents. Donc il va perdre l'estime d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi l'estime de ses parents. Subhanallah. Car il y a une forme, dans ce cas-là, il y aurait une forme d'hypocrisie. Il y aurait une forme d'hypocrisie. Il faut donc que la personne rende service à ses parents uniquement pour satisfaire son Seigneur tabaraka wa ta'ala, car la satisfaction d'Allah jalla wa ala dépend de la satisfaction des parents. D'accord ? La satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala dépend de la satisfaction des parents. Non, c'est pour ça que je t'ai répondu la réponse que je t'ai répondu. C'est bon ? Non. Il y a toujours moyen de... Non, celui qui se met... La colère d'Allah dépend de la colère des parents. Mais dans tous les cas, tant que tu as possibilité de te rattraper, tu peux te rattraper. Alhamdulillah. Voyez ? Non, mais pourquoi tu veux satisfaire tes parents? Pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Est-ce que c'est pour qu'ils t'achètent la dernière console, la PlayStation 4, ou là, pour que Allah soit content de toi? C'est pour qu'Allah soit content de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Non, l'amour, c'est autre chose. On ne parle pas de l'amour. Bien sûr que tu aimes tes parents. C'est un amour qui est naturel. On ne parle pas de l'amour, on parle pourquoi tu fais ça. Si tu veux être récompensé surtout. Surtout si tu veux être récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala, il faut que tu aies cette intention-là, qui est de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala avant tout. Parce qu'il se peut que la personne le fasse juste pour un intérêt. Un intérêt, yani. Tu vois, pour être bien vu auprès de sa mère. Pour être bien vu auprès de son père. Non. Pour se faire bien voir, et Ali, tu vas faire des choses pour tes parents. Tu dois faire ces choses-là pour Allah tabaraka wa ta'ala, avant tout. Avant toute chose. Fayam bari an yura'a hada. Alla تطلب بخدمتك المنزلة عندهما لأنك ربما خدمت أبويك ولم تكن لك منزلة عندهما وهذا فاش في الناس لأنك تجد كثيرا أن من أحبك وأقبل عليك وخدمك لا تجد تقديرا له عندك وهذا أمر عجيب سبحان الله هذا أمر عجيب في طبائع البشر أما من تعزز وتمنع فهذا هو الذي يراعى ويقدر وهذا كله ابتلاء ومحنة وهذا تجده كثيرا فاشيا في خلق الله تعالى فتجد الابن خادما لأبويه عند قدميهما ومع ذلك يفضلان عليه من إخوته أو أخواته من لا يخدمهما نعم هذا حاصل هذا حاصل سبحان الله هذا يخدم لأبيها ويخدم لأمها ويرى أن أبويه يفضلان أخاه أو أخته الذي لا يخدمون لهما في شيء. حاصل لا لا حاصل. ولا ينظر في وجهيهما، الله أكبر، يعني لا يخدمهما، لا يخدمهما، لا ينظر في وجهيهما إلا مع تطاول المدة، فهذا في حد ذاته ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى ليمتحن الإخلاص والصدق والصبر. فعلى المرء ألا يطلب بخدمته لأبويه منزلة عندهما إلا من حيث أن رضا الله في رضا الوالدين.
Donc là, tu vas mieux comprendre ce qu'il veut dire le cheikh. Il dit, il faut donc faire attention à ça. Donc il ne faut pas que tu demandes à travers tes services que tu rends à tes parents quelque chose auprès d'eux, d'avoir une place auprès d'eux. Il se peut même que même si tu fais, tu rends service à tes parents du matin au soir, il se peut que tu n'arrives pas à atteindre cette proximité-là avec tes parents. Et cela, il dit le cheikh, c'est répandu dans la société. Auprès des gens, c'est connu ça. Tu en vois certains, naam, qui t'aiment. Tu le vois, il t'aime. Il te rend service. Il est tout le temps là à demander après toi. Taïeb. Mais il n'a pas atteint une estime yani, auprès de toi. Malgré tout ce qu'il fait, il n'a pas atteint cette estime-là auprès de toi. Taïeb. Il dit, les chers, ça c'est une chose qui est étonnante et qui existe dans le tempérament de l'être humain. L'être humain, lui, il se peut que tu lui rendes service, hein, tu demandes après lui, tu es gentil avec lui, mais malgré ça, il te rejette. Il te rejette. Il ne t'aime pas. Oula, Subhanallah. Alors que toi, Yannick, tu fais ces choses-là parce que tu l'aimes ou là parce que tu le respectes, eh bien, en vérité, ça ne suffit pas. Il aurait fallu que tu le fasses pour Allah, tabarak wa ta'ala. Taïeb. Alors que des fois, celui, justement, qui ne fait rien du tout, celui qui ne rend jamais service, eh bien, lui, tu le vois, il est copain avec un tel, là, il est ami avec tout le monde. Là. Les gens, ils l'aiment bien. Adil. Na'am. Il dit, le cheikh, ça, c'est une épreuve d'Allah. Ça, c'est une épreuve d'Allah, tabarak wa ta'ala. Un examen, un test. Une chose que l'on voit assez fréquemment parmi les gens. Donc on revient au fils ou à la fille qui va rendre service à ses parents, qui va les amener faire les courses, va les amener chez les médecins, va les amener chez, acheter les médicaments, il va les sortir, il va bricoler chez eux. Pourtant, il a tous ses frères qui font rien. Eux, ils font rien. Du matin au soir, Yanni, il se peut que ses frères, ils appellent même pas pour demander comment ils vont. Eh bien, il se peut que lui, auprès de ses parents, Yanni, il n'est pas si aimé que ça. Ou peut-être il est moins aimé que les autres. Malgré tout ce qu'il fait. Subhanallah. Eh bien, ça, c'est une épreuve d'Allah. C'est une épreuve d'Allah. C'est pour cela que il faut faire les choses pour Allah. Comme ça, si malgré ça, tu n'as pas cette estime-là méritée auprès de tes parents, c'est pas grave. Tu as l'estime d'Allah, tabarak wa ta'ala. Tu as la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu dois patienter. Car Allah, jalla wa ala, il teste est-ce que tu es vraiment véridique. Est-ce que tu fais ça pour tes parents yani pour bien te faire voir auprès d'eux, pour avoir un intérêt matériel, financier. Hein? Pour que ton père te prête sa voiture de temps en temps. Des choses comme ça. Ou est-ce que tu le fais vraiment pour Allah? Allah, il te teste comme ça. Il te teste, non. Est-ce que tu es véridique? Est-ce que tu es sincère? Et est-ce que tu patienteras? Donc il faut que la personne, lorsqu'il rend de service, lorsqu'il est bienfaisant envers ses deux parents, qu'il ne recherche pas cette proximité-là ou cette estime-là auprès de ses parents, mais qu'il le fasse que
parce qu'il sait que la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala dépend de la satisfaction de ses deux parents. Non. Inch'Allah ta'ala, المدة طويلة بين الصلاتين فأظن أن نكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل حتى تتوضأوا وتصلوا يعني إن شئتم فالعلم عند الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم على حسن استماعكم